Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu nous as ressuscité. Tu nous as ressuscité cette vie de la mort, du péché. Et maintenant, nous sommes vivants en toi. Et nous devons continuer à célébrer cette vie éternelle que nous commençons ici sur la terre. Nous prions pour tous ceux qui se reconnaissent être tes enfants, qui sont contents de l'œuvre que tu as faite sur la croix de Golgotha. Nous voulons que tu leur donnes la force de continuer à être victorieux jusqu'à ce qu'ils vont te voir et vivre éternellement et faire la scène éternellement avec toi dans le ciel. Que tu nous donnes le courage de rencontrer tous ceux qui ne te connaissent pas. Les uns sont parmi nous qui n'ont même pas été en mesure de t'approcher ta table. Seigneur, que ton esprit agisse pour qu'il soit transformé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Alléluia. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne encore cette opportunité de partager sa parole ce matin. Alors, sans plus tarder, je vais nous demander d'ouvrir nos Bibles dans Jacques, chapitre 2. Jacques, chapitre 2, nous allons lire à partir du 15e verset. Jacques 2, 15 à 26, je vais lire dans la version Le Semeur. Supposons qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'est pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit « Au revoir mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit. » Sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle ne se manifeste pas par les actes, elle est morte. Mais quelqu'un dira, l'un à la foi, l'autre les actes, eh bien, montre-moi ta foi par les actes, et moi je te montrerai ma foi par mes actes. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, c'est bien, mais les démons aussi le croient, et ils tremblent. Tu ne réfléchis donc pas, veux-tu avoir la preuve que la foi sans les œuvres ne sert à rien? Abraham, notre ancêtre, n'a-t-il pas été déclaré juste à cause de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble et grâce à ses actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. Verset 23. Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture déclare en son sujet. Abraham a eu confiance à Dieu et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré donc juste. Il l'a appelé son ami. Vous voyez donc, on est déclaré juste devant Dieu à cause de ses actes, pas uniquement à cause de sa foi. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas été aussi déclarée juste par Dieu à cause de ses actes? Lorsqu'elle a donné asile aux envoyés d'Israël, elle les a aidés à échapper par un autre chemin. Car comme le corps sans esprit est mort, la foi sans les actes est morte, parole du Seigneur. Prions. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole qui est esprit et vie. Vivifie-nous, Seigneur, par ta parole. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème que nous exploitons ce matin est intitulé « Prêcher par les œuvres ». Et donc, notre texte de base, nous venons de le lire dans Jacques, chapitre 2. Nous allons pouvoir citer d'autres versets au cours de notre intervention. Alors, nous devons savoir une chose, c'est qu'il est plus facile de prêcher en parole que de prêcher en acte. Il est plus facile de prêcher avec les paroles que de prêcher avec son comportement. Et là, je me souviens d'un jeune riche qui est cité dans Matthieu chapitre 19 et qui se croyait avoir atteint le ciel. Il est venu auprès de Jésus et lui dit « Qu'est-ce que je peux encore faire de bon pour avoir ou hériter le royaume de Dieu. Et Jésus lui a posé la question, est-ce que tu connais les commandements? On a commencé à citer, tu aimeras ton Dieu, ainsi de suite. Mais lorsque Jésus a dit, maintenant va et donne ta richesse, va vendre ta richesse et donne aux autres. L'application là a été plus difficile à celui qui se croyait qu'il a déjà tout et il récitait même tous les versets en tête. Il est plus facile donc de prêcher avec les paroles que de prêcher en acte. Notre intervention va se limiter à trois points. Le premier point, nous allons répondre donc à une question qui est formulée de la manière suivante. Peut-on prêcher l'évangile sans parole? Si oui, est-il suffisant? Le deuxième point, nous allons parler des trois sortes d'œuvres que Dieu attend de nous. Et en troisième lieu, nous allons conclure notre message par deux exemples de foi à imiter. Alors nous commençons par le premier point qui est une question à laquelle nous répondons. Peut-on prêcher l'évangile sans parole? Les gens disent souvent que la communication verbale est plus importante que la communication non verbale est plus importante que la communication verbale. D'ailleurs, il y a ceux qui ont fait des recherches et qui ont dit que lorsque nous voulons communiquer, les paroles prennent 7% dans notre communication, tandis qu'il y a la communication paraverbale qui prend 28% et la communication non verbale prend environ 55%. Donc, on constate que lorsqu'on dit qu'on peut communiquer, on peut prêcher sans parole, même la communication ordinaire que nous faisons avec nos semblables, nous faisons la grande partie sans parole. Les pédagogues, d'ailleurs, nous disent que les actes parlent plus fort que les paroles. Lorsque Jacques a écrit cette lettre ici, au niveau de l'église de Jérusalem et dans toute la Palestine, il y avait une crise semblable à la crise du Nord Kivu. Il y avait la misère, il y avait la pauvreté, parce que si vous lisez les premiers chapitres, vous allez trouver qu'il y avait même certaines personnes qui arrivaient dans l'église avec des habits déchirés. Et Jacques est en train de dire que, mais comment lorsque vous, les diacres, vous faites asseoir les gens dans l'église, vous donnez à ceux qui sont bien habillés des places pour s'asseoir, mais ceux qui sont mal habillés, vous les demandez de se mettre par terre. Donc la misère était telle que les gens ne trouvaient même pas l'habit de dimanche, si on peut le dire comme ça. Et c'est pour cela que lorsque Jacques est en train d'écrire cette lettre ici, il est en train de mettre un accent sur les actes que nous devons poser en tant que chrétiens pour soulager tant soit peu ceux qui sont dans la misère, ceux qui sont en difficulté, ceux qui traversent certaines épreuves. En fait, les pauvres, si vous voulez lui venir en aide, les gestes peuvent transmettre, il va bien plus écouter les gestes que les paroles qu'il pouvait dire. Les nécessités ont plus besoin des actes concrets que des paroles qui ne sont pas suivies d'actes. Même les personnes méchantes avec qui nous pouvons vivre, ils sont sensibles aux actes que nous pouvons poser. Je me souviens, j'ai écouté une histoire d'un soldat russe qui était, leur troupe était au champ de bataille quelque part. Alors, un jour, il était parmi ceux qui font la première ligne, les guetteurs. La troupe est à ce niveau. Maintenant, lui, il est placé devant pour guetter de là où l'ennemi va venir. Alors, il était dit qu'un soir, il a vu un serpent qui est passé à côté de lui. Et il a constaté, comme ils étaient dans le désert vers Syrie là-bas, le serpent était affamé. Le serpent aussi avait soif. Et avec son gourde qui avait de l'eau, il a donné de l'eau au serpent. Il avait aussi des miettes de pain. Il a donné aussi du pain au serpent. Le serpent a disparu dans le sable. Le lendemain, encore soir, lorsqu'il revenait encore à la même position, encore le serpent est venu. Il a donné encore du pain. Et une autre soir, encore le serpent est venu. Il a donné encore du pain. Alors il a dit qu'alors un jour, lorsqu'il voulait être relevé vers 23 heures pour entrer au campement et qu'il soit relevé par une autre personne, le serpent l'a bloqué la route. Il voulait avancer, le serpent le bloque la route. Il voit donc une attitude méchante dans l'attitude du serpent. Et après quelques 30 à 45 minutes, le serpent lui avait laissé le chemin pour qu'il puisse passer. Et lorsqu'il est arrivé là où se trouvait le cas de ses collègues, il a trouvé qu'il y a une troupe de commandos, de cas adverses qui étaient venus et qui a égorgé tout le monde. Donc même le serpent, que nous considérons comme notre ennemi qui ne nous aime pas, si nous faisons un acte de charité avec lui, il peut comprendre que celui-ci nous aime. En fait, agir envers les pauvres et ceux qui sont éprouvés et les méchants, poser des actes auprès d'eux, c'est faire preuve d'humanisme. C'est aussi pratiquer le commandement de Dieu qui a dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est aussi vivre de manière cohérente avec la Bible, avec l'Évangile, parce que l'Évangile se résume par l'amour de Dieu. Comment nous allons dire que nous aimons Dieu que nous ne voyons pas, si nous ne posons pas des actes, si il n'y a pas d'œuvre que nous posons et que notre entourage va devoir remarquer? Mais est-il suffisant de prêcher par les œuvres sans parole? Il y a quelqu'un qui a travaillé dans une ONG qui m'a dit qu'il travaillait avec une blanche qui était très gentille. Lorsqu'ils arrivaient au travail, ils posaient toujours la question : comment vous avez passé la nuit chez vous et la famille? Alors ils disaient : mais comment ce blanc il est différent des autres? Alors un jour, ils étaient quelque part. Alors ce blanc-là, il lui a donné l'intégralité de son nom, parce que dans son nom, il y avait souvent un point, donc qui n'était pas cité dans son nom. Alors lorsqu'il a dit que je m'appelle Marie, un nom quelconque, et ils se sont étonnés, donc tu es chrétien. Et le blanc dit, donc depuis que je vis avec vous tous ces jours, vous n'avez jamais remarqué que je suis chrétien? La foi vient de ce qu'on écoute. Et ce qu'on écoute vient de la parole de Dieu. C'est pour vouloir dire que lorsque nous sommes en train de poser des actes, lorsque nous sommes en train de poser des actions, à un certain moment, il sera nécessaire que nous puissions ouvrir la bouche pour que la personne chez qui nous avons posé cet acte-là puisse reconnaître la source de notre attitude et de notre comportement. Les œuvres à poser comme deuxième point, j'ai subdivisé ça en trois catégories. Dieu nous appelle à avoir une foi vivante, à avoir une foi qui s'exprime par des actes, qui s'exprime par des œuvres. Et j'ai résumé ces œuvres en trois catégories. La première catégorie, je l'ai nommée la catégorie des œuvres de base. Jacques chapitre 2, versets 18 et 19. Mais quelqu'un dira: l'un a la foi, l'autre les actes. Eh bien, montre-moi ta foi sans les actes, et je te montrerai ma foi par mes actes. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, c'est bien, mais les démons aussi le croient et ils tremblent. La foi vivante doit se voir. La foi doit se palper. D'ailleurs, lorsqu'on donne la définition dans Hébreux chapitre 11, on dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration. Donc, à un certain moment, il ne faut pas nous limiter à une foi comme une espérance aux choses qu'on espère. Il faut qu'on arrive à démontrer ça. que les gens sachent que ça existe, que nous avons vraiment cette foi-là. La foi se palpe, la foi, ça se démontre par les actes. La vie chrétienne implique un certain comportement. On ne peut pas crier que je suis chrétien, alors que dans les actes, il n'y a pas de différence entre vous et les démons. La foi doit se voir par les actes. Donc, si quelqu'un dit qu'il a la foi, son comportement doit le manifester. On va te trouver que, ah oui, il dit qu'il a la foi, il n'est plus impudique, il n'est plus alcoolique, il n'est plus menteur. Donc, ce sont des choses que les gens vont voir. Ils vont palper. Et vont, ah oui, en tout cas, les comportements, les actes qu'il est en train de poser, ça vient vraiment de la source de la foi. Donc, il est en train d'obéir à la personne à qui il a cru. La deuxième catégorie des œuvres, ce sont les œuvres de charité. Cette catégorie aussi est aussi importante que la première. Parce qu'on peut avoir la première catégorie, c'est-à-dire on ne fait pas de péché, on ne fait pas ceci, on ne fait pas ceci, et ça se voit, les gens trouvent ça. Mais si on manque cette deuxième catégorie, on risque de mettre des points d'interrogation sur notre foi. Et c'est pour cela que dans Jacques chapitre 2, le verset 15 et 16, Jacques est en train de parler des personnes avec qui nous vivons et qui n'ont pas d'habit et qui n'ont pas à manger. Il dit que si nous disons que nous avons la foi, nous ne pouvons pas seulement prononcer des paroles auprès de ces gens-là et dire que bon, va te réchauffer, bon appétit, Dieu pourvoira. Hein? Alors que Dieu nous a déjà mis à côté de ces gens-là pour que nous puissions pourvoir. D'ailleurs, il y a beaucoup de passages dans la Bible qui mettent beaucoup d'importance sur cette deuxième catégorie des œuvres, les œuvres de charité. C'est par exemple l'histoire du bon samaritain. Vous allez trouver qu'il y avait un lévite, il y avait un prêtre, conforme avec la loi, ils n'ont pas péché, mais lorsqu'ils trouvent une nécessité sur la route, ils passent outre. Déjà, ça a été un point d'interrogation sur eux. On trouve ici, par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 13, on dit qu'on peut avoir même la foi qui peut transporter des montagnes. Mais s'il n'y a pas de charité, ça ne sert à rien. Il y a Matthieu chapitre 25 où Jésus dit que bon, j'ai été affamé, j'avais soif, j'étais en prison et bon, du côté droit, vous êtes venu me voir, mais du côté gauche, vous n'avez pas réalisé ces actes-là. Et vous trouvez que ces actes ici ont une très grande importance. Même lorsque vous voyez même Corneille, dans Actes chapitre 10, on trouve que l'ange est en train de lui dire que non, Dieu a écouté tes prières et les actes de charité ou les aumônes que tu as donné aux pauvres. Prière, d'accord, adorer, d'accord, mais les actes de charité, c'est très important dans la vie du chrétien. La troisième catégorie des actes ou des œuvres que Dieu attend de nous, ce sont les œuvres de réalisation de nos potentiels. J'ai médité un peu sur la vie de Gédéon dans Juges chapitre 6. Gédéon, jeune, issu d'un petit clan, il a un potentiel à lui, un potentiel que Dieu lui a donné, mais qu'il n'aimait pas à pratique. Il reste cantonné quelque part comme un cultivateur, alors que Dieu le reconnaît comme un grand guerrier. C'est pour cela que l'ange, lorsqu'il se présente à lui, dit « Gédéon, vaillant. » Et il dit « Moi !» Et il était caché quelque part en train de récolter des récoltes pour que les Madianites ne puissent pas venir ravir sa récolte. Souvent, lorsqu'on a vécu très longtemps dans la médiocrité, on pense que c'est ça la manière de vivre, la manière d'être, la manière d'exister. Les personnes qui ont moins de 30 ans ici et qui sont nées après les années 90, elles doivent comprendre que, par exemple, s'il y a crépitement des balles, c'est la vie normale. Mais les gens qui ont vécu avant les années 90, elles savent que non, non, ça, ce n'est pas ça ce qui est normal pour la vie des hommes. Gédéon a vécu dans un moment où ils étaient comme en esclavage, pris en étau par les Madianites. Et il était devenu comme ça, inactif, et même tout ce qui était en lui comme dos, tout était déjà endormi. Alors, lorsque nous sommes en train de parler de ces œuvres de réalisation de nos potentiels, nous devons savoir qu'on soit chrétien ou non chrétien, Dieu a mis à chacun de nous des potentiels. Et nous devons les mettre en œuvre pour que les gens qui nous entourent puissent en bénéficier. Il a fallu que Gédéon s'élève pour que Dieu aille accomplir des miracles avec lui et que toute la nation d'Israël soit sauvée. Nous avons besoin de Gédéon parmi nous qui vont s'élever et qui vont faire éclater les potentiels qui sont en eux. Moi, il y a des choses qui souvent me font mal à la tête. Lorsque nous allons acheter même le pain, on dit qu'on va acheter le pain de Krishna. Et je me dis, mais Krishna, ça doit être un Indien, non? Donc nous, les Congolais, on n'a même pas cette potentialité-là de fabriquer même le pain. Pour que ça soit même si bon. Aussi un autre Indien qui sait aussi fabriquer du pain. À un certain moment, lorsque j'étais assis de l'église à Kéchéon, lorsqu'on demandait à un des assiés, comme on prépare la Sainte Cène, comme tu viens de la ville là-bas, c'est toi qui vas nous amener le pain là-bas. Il y a des choses qui passaient dans ma tête, je me dis finalement. Donc, on va acheter le pain chez ceux qui ne disent même pas au nom de Jésus en faisant leur travail vraiment. Bon, ce sont des choses qui passaient au-dedans de moi, je ne les déclarais pas. En fait, je veux dire que nous avons des potentiels que Dieu a mis en nous. Et nous devons croire à ça, que nous sommes... En fait, la Bible dit que nous sommes de Dieu. Si Dieu nous a créés, nous sommes aussi appelés à procréer. Nous devons laisser amener en existence certaines choses et ne pas rester oisifs. Mettons-nous au travail pour la gloire de Dieu. Il y a des choses qu'on fait et on pense que c'est ça là normalement. Il y a quelqu'un, par exemple, lorsqu'il achète une voiture, bon, il a déjà acheté une voiture. Et puis la voiture, lorsque ça vient, on écrit IT. Et puis les gens croient qu'il a une nouvelle voiture, hein. C'est IT. Alors que IT, c'est-à-dire immatriculation, c'est-à-dire ce n'est pas une voiture d'occasion. C'est-à-dire ça a été jeté à la poubelle par une personne. Et puis, bon, l'autre maintenant, bon, va l'acheter comme new. En fait, on a déjà pensé que ça, c'est normal. Parce que lorsque quelqu'un achète IT, félicitations, tu as acheté, félicitations. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous devons dépasser ce niveau-là. Parce qu'à un certain moment, on pense que c'est ça la normale, acheter des occasions. Donc, quelqu'un ne peut pas acheter 0 km. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à ne pas être crispé, être comme affirmé comme ce Gédéon qui croyait que c'était ça ce qui était, ce qui devrait se faire. Alors que Dieu attendait plus que ça. Deux exemples de foi à imiter. Dans notre texte, nous avons lu deux personnes. La première personne, c'est Abraham. Et la deuxième personne, c'est Rahab. On dit qu'Abraham, au verset 22, 23 et 24, il a été déclaré juste parce que il a posé un acte de foi. Il a offert Isaac. J'étais en train de lire Genèse chapitre 22, ce passage qui nous parle d'Abraham et Isaac. Et j'ai voulu ce matin focaliser mon attention sur l'offrande qui a été offerte ce jour-là. Parce qu'ici, on dit qu'Abraham, il a appelé l'homme de foi parce qu'il a obéi à la parole de Dieu et il a cédé son unique Isaac. Parce qu'il a vu qu'il n'y a pas quelque chose de plus grand que Dieu. Mais lorsque je lisais ce passage ici, j'ai trouvé quelque chose d'important que je voulais partager avec les jeunes qui sont avec nous ici. Au verset 7 de Genèse 22, la parole de Dieu dit ceci. Lorsque Abraham sont arrivés quelque part avec ses deux serviteurs, il a demandé à ses deux serviteurs, restez ici, moi et Isaac, nous allons monter sur cette montagne-là pour adorer l'Éternel. Et il a chargé Isaac du bois, Abraham a pris du feu et ils ont commencé le trajet qui restait. Et puis au verset 7, il est écrit que Isaac a posé la question. Abraham, mon père, nous avons le bois, nous avons le feu, mais où se trouve l'agneau qu'on doit immoler? Lorsque j'ai médité sur ce passage ici, j'ai trouvé que ce jeune ici, c'était vraiment un jeune très spirituel. Parce que lui, à ce jeune âge, il savait déjà que lorsqu'on dit que je pars adorer, on doit avoir un agneau. Il s'agit qu'on ne doit pas se présenter devant Dieu les mains vides. Parce que c'est lui qui a posé, si vous lisez ce passage, c'est lui qui a posé cette question à son père. La foi ne dépend pas du nombre d'âge. Parce que les gens, quelqu'un peut rester à ce niveau-là, il dit, bon, agrandissant et vieillissant aussi, ma foi va. Isaac avait déjà une grande foi, même en étant petit. Il savait déjà beaucoup de secrets spirituels. C'est lui qui a posé la question à son père. Et lorsque son père lui a répondu à Isaac, à Isaac, mon fils, hein, l'Éternel pourvoira. Dans la suite du passage, on trouve que Isaac n'a rien répondu ou n'a rien ajouté. Parce qu'il savait déjà, comme les bois ici, on vient de mettre ça sur ma tête, c'est que c'est moi ici qui ai l'agneau. En fait, c'est ce que ça signifie. Parce que lorsqu'on lit ici, on va trouver qu'Abraham avait toute la facilité de lier les pieds et les mains d'Isaac. Parce que c'était un jeune qui était préparé, qui dit que je suis prêt à m'offrir à sacrifice. Romains chapitre 12 dit, offrez vos corps comme sacrifice vivant, saint et sans tâche. Isaac connaissait déjà cela. C'est pour cela que lorsque son père pouvait lier ses mains, il était calme. Il s'était déjà donné. Dieu nous demande à nous donner à lui et Dieu nous demande aussi de donner à poser des actes de foi. Je vais m'arrêter par là en disant que notre foi doit être une foi vivante. Nos actes doivent être le témoignage que nous obéissons vraiment à Dieu. Nos actes de charité doivent nous aider à témoigner l'amour de Dieu auprès des autres. Croyons que Dieu ne nous a pas délaissés, qu'il est avec nous, qu'il nous a donné des potentiels. Ce n'est pas seulement aux païens, ce n'est pas seulement aux Chinois. Même nous aussi, il nous a donné aussi des potentialités que nous devons mettre aussi en œuvre. Il y a quelqu'un qui a dit ceci. En matière de foi, lorsque vous croyez, ayez foi comme si tout dépendait de Dieu. Mais en matière d'action, en matière d'actes à poser, agissez comme si tout dépendait de vous. Que Dieu bénisse sa parole.